Écho de la cité. Écho de la cité, les hommes et femmes se prononcent sur l'actualité, les événements et faits marquants de la cité. Mon coup de gueule.
Coup de cœur.
Mon cri de cœur.
Comme coup de gueule.
Mon coup de cœur.
Mon cri de cœur.
Écho de la cité, Tipene Rwamba.
Bienvenue, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la RTB Radio à l'émission Écho de la Cité. Cette semaine, nous sommes toujours dans la capitale, pays des hommes intègres, et certains Ouaravillois ont bien voulu donner leur point de vue sur l'actualité, les faits et événements qui ont marqué leur cité. Les sujets abordés sont entre autres la crise universitaire, le financement des partis politiques lors des élections, la reprise de certains concours de la fonction publique et les mesures d'accompagnement des victimes de l'insurrection et du putsch. En studio, nous avons M. Boukari Konombo, membre de la société civile et président du mouvement Brassard Noir. Notre invité donnera son point de vue, ses analyses, commentaires par rapport aux opinions des uns et des autres.
Écho de la cité.
Bonjour M. Boukari Konombo.
Oui, bonjour.
Merci d'accepter notre invitation à l'émission Écho de la Cité. Oui. Vous êtes membre de la société civile et président du mouvement Brassard Noir. C'est bien cela?
Oui, bien cela.
C'est la première fois que nous vous accueillons sur ce plateau. Avant de commencer notre émission, dites-nous pourquoi le thème Brassard Noir?
Ok, le thème Brassard Noir a quand même une histoire. Quand on sait que le régime passé, le défunt régime a un passif en matière de droits de l'homme, un grand passif, c'est à ce moment que le mouvement Brassard Noir est né. En 2012, il était très actif au décès du juge-constitutionnel Salifou Niébié pour demander justice et que ce soit vraiment la fin des assassinats politiques. Voilà pourquoi le terme Brassard Noir.
Nous savons que le Burkina Faso se vient de traverser des moments difficiles. Quel est le rôle que le mouvement Brassard Noir a joué?
Bon, le Brassard Noir, à l'instar des autres mouvements de la société civile, était sur le terrain, actif, très actif sur le terrain. D'où même d'ailleurs le nom de mouvement spécifique. Je peux classer dans les mouvements spécifiques parce que, vu le rôle que nous avons joué.
Nous savons aussi que vous étiez en Côte d'Ivoire pour observer les élections. Quel enseignement vous avez tiré de ce déplacement?
Bon, de ce déplacement, pour revenir à ce déplacement, d'abord, signifie que je suis allé en Côte d'Ivoire en tant que député. Je suis déjà membre du CNT, député du CNT. À ce titre, je suis député du CIP Uyomoa. Par rapport à ça, je vais saluer le président du CNT, son excellence, M. Mouna Serifsi, qui, après notre mission du CIP Uyomoa, bien sûr, mais avalisé par le président du CNT. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire pour observer les élections, on a fait quand même 2 semaines en amont et en aval pour voir est-ce que tout est mis en place pour aller aux élections, est-ce que les élections seront payées tout. Vraiment, c'était une belle expérience. Ça faisait la deuxième fois quand même parce que je l'avais fait une première fois au Togo le 15 avril et ça, maintenant, c'était la deuxième fois. Ça fait vraiment une belle expérience, vraiment, que ça s'est bien passé.
Ok, merci beaucoup pour ces informations. Nous revenons à notre émission. Cette semaine encore, nous avons pris le pôle de la cité dans la ville de Ouagadougou et certains Ouaravillois ont bien voulu donner leur point de vue sur l'actualité, les faits et événements qui ont marqué leur cité. Je vous invite à écouter le premier volet, les coups de gueule.
Comme coup de gueule.
Ok, moi c'est Traoré Yakuba, étudiant en 5e année de droit. J'aimerais parler de la question des universités Ouaga et Ouaga 2. Ça fait carrément plus de 2 semaines que la situation est bloquée ici. Les autorités et les étudiants se jettent des accusations mutuelles. Le camp des étudiants accuse les autorités de les avoir empêchés d'avoir accès à leur cité, tandis que les autorités, notamment certains éléments du CNU, les accusent de les avoir séquestrés. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que d'abord les autorités, quoi qu'aient pu faire les étudiants, ils ont fauté, je suis d'accord pour ça, mais les autorités n'auraient pas dû demander aux étudiants quand même de remettre les clés. Remettre les clés, pourquoi faire? Et remettre les clés et où aller? Remettre les clés pour aller dormir dehors? Pourquoi on ferme également le restaurant universitaire? Alors que les CNU ont dit que c'est l'action sociale de l'université. L'action sociale qui crée des cas sociaux, qui empêche les étudiants de manger. Encore l'action sociale qui prive les étudiants de leur droit au logement. Je trouve que ça, ce n'est pas normal. Mais il ne faut pas également seulement jeter la pierre aux autorités, je les appelle quand même à s'entendre avec les étudiants pour trouver une issue heureuse. Mais du côté également des étudiants, il faudrait qu'ils prennent en compte que le statut d'étudiant n'est pas un statut de hors-la-loi ou encore d'homme au-dessus de la loi. Pas parce qu'on est étudiant, on a le droit de priver également des autorités de leur liberté d'aller et de venir. Ça ne donne aucunement ce droit. Mais je crois que la réaction des étudiants est une réponse à un acte préalable des autorités. Parce que vous ne pouvez pas dire la rentrée est programmée, par exemple, pour le premier. Les gens viennent à bonne date et vous dites que la rentrée est reportée, alors que vous n'avez pas pris soin de préciser qu'en même temps, l'ouverture des cités sera également reportée. C'est en quelque sorte une réponse ou une réaction à une faute également commise par les autorités. Et pour cela, les autorités devraient également revoir leur position. Si on se met à sanctionner l'ensemble des étudiants, ce n'est pas non plus juste parce que chacun est responsable de ses actes. Pour l'action d'un groupuscule d'étudiants, on se met à sanctionner tous les étudiants. Il va sans dire que la sanction n'est pas proportionnelle. Et pour cela, j'appelle les autorités à revoir leur copie. Voilà.
Bon, sinon moi c'est Bikaba Marcelin. J'aimerais intervenir par rapport aux mesures d'accompagnement que la transition a pris tout récemment concernant les victimes de l'insurrection et du putsch manqué. Concernant les victimes de l'insurrection du 30-31-2014, moi en tout cas à mon sens, on dit vaut mieux tard que jamais, mais quand même bon, ils ont laissé à quelques jours de la fin de la transition, ils ont pris ces mesures-là. Qu'est-ce qui prouve que les régimes, surtout les politiciens qui vont venir là, ces gens-là même sincèrement dit, en toute honnêteté, on n'a pas confiance en ces gens-là. C'est pas sûr que quand ils vont venir, ils pourront faire quelque chose de concret. Parce que quand nous entendons leurs déclarations à gauche et à droite, ils s'assemblent uniquement qu'à leur siège. C'est-à-dire le fauteuil là, c'est tout ce qui les intéresse. Ils sont là, nous ne voulons que les élections, nous ne voulons que les élections. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là, arrivés là, ils ne vont pas oublier tous ces trucs-là et puis bon, s'acharner au bien du pays et puis commencer à faire les mêmes choses que les régimes précédents. La transition a quand même un peu faussé sur ce plan.
Et moi, c'est Traoré Yacouba. S'agissant de la question du financement des partis politiques, et j'ai vu la semaine dernière des d'hommes politiques qui se plaignaient à la télévision comme quoi le financement des partis politiques était dérisoire. Dérisoire en ce sens que l'État n'avait accordé que 1 milliard, mais avant-hier, j'ai appris qu'on a ajouté 300 millions là-dessus. Il y a un même qui s'est permis de dire que si on leur remettait pour les présidentielles 25 millions, qu'eux, ils n'allaient pas faire de bilan. Et ils n'allaient pas justifier l'utilisation de ces fonds. Mais c'est abominable qu'un homme politique vienne à dire ça. C'est des deniers publics. Un parti politique ne doit pas être pris en charge par l'État. Ça, c'est abominable, c'est inconcevable qu'un homme d'État, quelqu'un qui prétend gérer le pouvoir politique, se mette à dire de tels propos. Parce que tout simplement, on n'avait pas ajouté les 300 millions pour prendre en charge les représentants des partis politiques dans leur bureau. Mais les représentants des partis politiques ne sont pas des travailleurs de l'État. Un parti politique qui se crée, il doit se prendre en charge. C'est pas l'État qui demande à quelqu'un de créer un parti politique. Voilà, moi j'aimerais même qu'à l'avenir, on supprime cette idée de prise en charge des représentants des partis politiques dans les bureaux. Parce que je crois que dans la sous-région, c'est seul le Burkina qui a des formules comme ça. Voilà, j'ai entendu le président de la CENI même évoquer la question. Et il paraît que dans la sous-région, c'est nous seuls. C'est de la dilapidation des deniers publics. Un parti qui se crée, il n'a qu'à prendre en charge ses militants. Voilà, c'est à eux même de contribuer pour faire fonctionner le parti.
Écho de la cité.
Monsieur Konombo, vous venez d'écouter les mécontentements des intervenants sur la crise universitaire, les mesures d'accompagnement des victimes de l'insurrection et du putsch et le financement des partis politiques lors des élections. Quelle est votre réaction par rapport à ces différents sujets?
Bon, ma réaction est celle d'un citoyen vraiment médusé face à ce qui se passe à l'université de Ouagadougou actuellement. Bien que l'État, pour moi, ne doit pas créer des cas sociaux. Bien qu'on dise, les étudiants aussi ne sont pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et les étudiants, pour moi, nos frères étudiants qui sont à l'université, doivent savoir les en garder. Et à chaque fois, quand il y a des mouvements comme ça, j'ai toujours eu foi et croire à ces étudiants dans la recherche du dialogue pour apaiser ce qui se passe là-bas. Mais on ne sait jamais, nous sommes dans une période électorale. On peut voir la main des politiciens dedans. Sinon, on ne peut pas comprendre que depuis une, deux semaines, ce mouvement, le gouvernement ne prend pas des mesures pour discuter sérieusement, prendre des mesures pour accompagner les étudiants et les dire ce que l'État peut faire, ce que l'État ne peut pas faire. Parce qu'actuellement, il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc, on se dit la vérité. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, comme je le disais au début, si c'est ce qu'on ne peut pas faire, l'État va créer d'autres problèmes, bon, il faut forcer quand même, les expliquer et puis les aider. C'est nos frères quand même.
Par rapport aux mesures d'accompagnement des victimes de l'insurrection et du putsch.
Là, vraiment, c'est vous avez vu, nous sommes à un an, et quand vous avez vu l'initiative que la TNM nous a proposée, ça fait froid au dos. Il y a quelqu'un qui vit avec une balle dans l'œil. On l'apprend déjà à la télé. Quelqu'un qui vit, pratiquement un an après, il ne peut plus rien faire. Il est inactif. C'est sa femme qui est obligée de pousser une barrique pour nourrir la famille. Il a une location, le propriétaire lui dit non, lui veut construire. Oui, c'est parce qu'il est en impayé.
Il n'arrive pas à payer.
Parce qu'il n'arrive plus à payer. Moi, je pense que de ce côté, et comme on dit, même si l'État a fait beaucoup de choses, est-ce qu'il y a eu un suivi? C'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. Regardez ces gens qui ont donné leur vie pour devenir des incapacités totales ou partielles pour défendre la Constitution, pour défendre la nation. Mais nous venons de voter la modification de la Constitution. Et après le vote, tout le monde a entamé l'hymne national. Mais c'est émouvant. C'était un moment solennel. Mais si ces gens qui ont défendu la Constitution
au prix de leur vie,
sont laissés pour eux-mêmes. Ah, sincèrement, de ce côté, je ne sais pas. Avant que justice les soit donnée, non mais donnez-leur au moins le minimum d'être fiers, de savoir qu'ils ont défendu quand même la Constitution de Burkina Faso.
C'est des vrais patriotes.
Non, c'est des vrais patriotes. Il ne faut pas qu'on les oublie. Elle est insuffisante ou bien la plupart va là où elle ne doit pas aller. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne doit pas montrer. Mais ça, c'est grave. Il faut vraiment... Bon, et de ce côté, nous, on est en train de voir, parce que dès les premiers instants de l'insurrection, en novembre 2014, mais nous, Mouvement Brassard, on a fait le tour des hôpitaux, recenser les victimes et les blessés. J'ai toujours le fichier. Nous, on va regarder si ces gars sont inscrits dedans. S'ils ne sont pas inscrits, on va les inscrire. Et faire nos tableaux et faire leur plaidoyer. Sinon, franchement, quand j'ai vu ça, je sais vraiment. Et quand tu regardes, c'est des Burkinabés, c'est vrai, mais c'est des anonymes. Est-ce que moi, président de Mouvement Brassard Noir, j'ai été blessé? Oui, peut-être traumatisme léger, c'est passé. Quand tu regardes, que ce soit l'insurrection, que ce soit le putsch, c'est toujours comme ça. C'est des mécaniciens, des menuisiers, oui, qui défendent la Constitution. Enfin, on ne doit pas les oublier.
Le financement des partis politiques lors des élections.
Le financement des partis politiques lors des élections, bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi. Ça peut booster la démocratie, c'est une bonne chose. Mais quoi qu'on dise, comme on dit hein, chez nous ici, pour traduire littéralement, on ne peut pas chercher à être chef avec les mains vides. Voilà, les partis politiques aussi doivent avoir quelque chose, les moyens matériels, financiers et humains avant de concourir l'électorat. Mais ça, maintenant, si l'État le donne un peu, c'est un plus. Voilà, il ne faut pas qu'eux, ils comptent sur ce financement pour battre campagne. Non, ils doivent se donner les moyens de chercher leur pouvoir.
Merci, M. Boukari Colombo, pour ses réflexions, points de vue et commentaires sur les coups de gueule. Nous allons faire place maintenant au deuxième volet, les coups de cœur.
Coup de cœur.
Moi, je m'appelle Badoul Alexis. Je suis un citoyen de la ville de Ouagadougou. Concernant la lutte contre le chômage, le financement pour les jeunes, je crois que c'est une bonne politique pour accompagner la jeunesse. On remarque vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage actuel. Si vous prenez l'exemple de l'université, il y a beaucoup d'étudiants qu'on forme et en fin de cycle se retrouvent dans la communauté sans rien et sans activité. Je crois que c'est vraiment de revoir, si le gouvernement pouvait revoir la formation pour qu'on adapte la formation à ce qu'on a sur le terrain, surtout pour promouvoir la jeunesse, accompagner la jeunesse dans beaucoup d'activités de la vie courante.
Ok, je me nomme Ouedraogo Daouda, je suis citoyen de la ville de Ouagadougou. Par rapport à la reprise des concours concernés par les fraudes, je suis carrément d'accord. Parce que si lorsqu'on ne reprend pas les concours, c'est comme on encourage la fraude. Donc, je souhaite que les ministres travaillent à ce qu'on réorganise les concours concernés. Là, il faut que l'administration soit très regardante afin qu'il y ait la transparence. Il faut permettre à tous les candidats d'avoir la même chance de succès au concours.
Moi, c'est Traoré Yakuba. La fraude est survenue lors des concours de la fonction publique. Il faut saluer cette première fois qu'il y a eu un réseau de fraudeurs qui a été démantelé. Mais je pense que le champ même des concernés n'a pas été vraiment délimité. Raison pour laquelle le ministre de la fonction publique a annulé les 10 concours. Et c'est une bonne chose car de par le passé, on entendait toujours dans les couloirs parler de fraude. Mais il n'y avait jamais de réaction. Pour cela, je salue surtout les autorités policières et de la gendarmerie qui ont fait un travail formidable. Mais sachant de la question de l'annulation, le ministre de la fonction publique a beaucoup traîné. Parce que la fraude a été détectée, je pense, vers début septembre. Mais le ministre, au début, a dit qu'il n'était pas question de reprendre les concours. Pourtant, lui-même, il est juriste, il le sait très bien. On dit que le concours est assis sur le principe de l'égalité des chances. À partir du moment où il y a des gens qui ont pris connaissance du contenu des sujets avant les autres, il va sans dire qu'il y a rupture de l'égalité des chances des candidats. Et il a beaucoup traîné, ça fait que ça va certainement jouer sur le calendrier de rentrée des écoles. Mais quand même, il vaut mieux tard que jamais. Et il s'est rattrapé, c'est une bonne chose. Et je félicite toutes les autorités de la transition qui se sont impliquées et pour que les concours concernés soient annulés.
Moi, je m'appelle Badoula Alexis. Concernant le baptême des camps militaires, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup qui ont participé dans le développement du pays. Donc l'État vraiment doit être reconnaissant voilà, à travers ces personnages-là. Donc c'est vraiment, je crois que c'est une bonne chose pour la reconnaissance. Hein. Ces hommes qui ont vraiment lutté à travers l'histoire, vraiment, on a su que c'est des grands hommes et ils méritent vraiment que ces camps-là portent leur nom.
Écho de la cité.
Monsieur Konombo, cette fois-ci, les intervenants apprécient le financement des projets des jeunes dans la lutte contre le chômage, la reprise des concours de la fonction publique attachée des fraudes et le baptême de certains camps militaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que de ce côté, dire merci aux autorités de la transition parce que c'est vraiment un problème. C'est comme on dit là, si en un an de transition, le gouvernement de la transition a pu faire un grand pas à l'endroit des jeunes qui vont s'installer, c'est vrai que ça va diminuer considérablement le chômage, la pauvreté et puis les accompagner, c'est bon. Voilà, moi, je pense que de ce côté, on dit que dire merci au gouvernement qu'il laisse affaire Inoka continuer pour que vraiment les Burkinabés sachent réellement qu'il y a un changement dans leur vie quotidienne.
La reprise des concours de la fonction publique.
Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que les autorités reconnaissent qu'il y a eu fraude. Ils disent qu'on ne va pas reprendre les concours. Ça sera la première fois. Et ça sera que vraiment dommage et grave à la fois. Oui, on reconnaît qu'il y a eu fraude. Oui, les gens ont fraudé. Mais vous devez apprendre des fraudés dans notre administration publique. Mais les actifs vont commettre après. Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas étonné. Vous êtes des complices. À la limite, vous êtes des complices. Donc, décider aujourd'hui de reprendre les concours, moi, je pense vraiment que c'est une très bonne chose. Et ça va aider à assainir le milieu des concours.
Troisième sujet, c'est le baptême de certains camps militaires.
Oui, le baptême des camps militaires, c'est bon comme on le dit, mais c'est pas arrivé. C'est comme on l'a dit. Dès le 1er novembre, quand nous avons été reçus par les autorités d'avant, que le Premier ministre qui était en ce moment président, dès le 1er novembre 2014, moi qui vous disais tout à l'heure que j'ai fait le tour des hôpitaux pour faire le point, vers 23h, au CES qui était le chef, mais j'ai demandé, j'étais à l'hôpital Yaldo Ouédraogo, j'ai fait le point, mais j'ai été à l'autre hôpital, Blaise Compaoré, je lui ai dit que je ne voulais pas prononcer le nom. Et je lui avais demandé qu'on puisse changer le nom. Il était d'accord. Il en avait même parlé. C'est pas pourquoi, oui. Baptiser les camps, il disait oui, mais il y a beaucoup à faire. Moi, je pense qu'avec la volonté, ils peuvent tout le faire. Voilà, nous avons des grandes personnalités qui vivent ou qui ne sont pas de ce monde, qui doivent porter, qu'on doit immortaliser leur nom par des institutions comme ça. Voilà.
Merci, M. Colombo, pour ces réflexions, commentaires, analyses sur les coups de cœur de la semaine. Je rappelle que notre invité est M. Boukari Colombo, membre de la société civile et président du mouvement Brassard Noir. C'est aussi la fin du deuxième volet de notre émission. Place maintenant à la troisième et dernière rubrique, les cris de cœur.
Mon cri de cœur.
Ok, je me nomme Ouédraogo Daouda. Voilà, par rapport aux mesures d'accompagnement pour les blessés de l'insurrection, je souhaite vraiment que le gouvernement travaille à mettre un comité afin qu'on prenne en charge les blessés là. Parce que c'est souffrant lorsqu'on regarde ces individus là, on les laisse. Ça veut dire qu'ils ont été marginalisés. Je lance un appel du côté du gouvernement, ceux qui travaillent à réintégrer ces blessés dans la société.
Ok, moi c'est Monsieur Emma Moïse. Je suis étudiant en histoire, la situation des étudiants. Avec le système LMD, je vais m'intéresser à l'effet SH en question, puisque j'ai constaté qu'en histoire, on avait eu un retard de 3 à 4 mois, je pense. Et de là, on est allé maintenant pratiquement à une année et demie. Du moment que les autres sont là, ils vont commencer l'année 2015-2016. En histoire, nous sommes toujours là dans les années de 2013-2014. Je ne sais pas si l'État ou bien nos responsables pouvaient essayer de trouver une solution à cette situation, au moins pour ne pas décourager les étudiants. Et j'ai constaté que beaucoup d'étudiants ont commencé à laisser le campus. Vu la situation, du moment qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va finir l'année 2013-2014, si on pouvait essayer d'accélérer un peu pour que nous aussi nous puissions au moins espérer toujours continuer les études. Une fois, il y a un de nos professeurs qui disait que lui, les étudiants en histoire ont déserté. Qu'est-ce qui amène les étudiants à déserter? C'est là la question. Je ne peux pas venir, par exemple, presser en train de dire je vais me concentrer pour les études alors que je ne sais même pas quelle sera l'issue de cette étude. Voilà.
Moi, c'est Compaoré Mahamadi. Ce qui me préoccupe plus, c'est tout ce qui concerne mes frères étudiants. Récemment, le problème du CNU. Vraiment, je voulais lancer un appel à l'endroit du président, plus particulièrement le ministre de l'Enseignement supérieur, de voir comment ils peuvent résoudre le problème, parce que présentement, j'ai beaucoup de frères même qui souffrent présentement, surtout concernant leurs conditions de vie sociale. Aussi, j'aimerais faire un appel si les partis politiques peuvent aider présentement les étudiants qui n'ont qu'à les aider à ce qu'ils s'entendent entre eux, étudiants et puis le gouvernement. Comme il y a eu le changement, j'aimerais qu'on bon, regarde ce qui va venir au lieu de passer tout notre temps à reculer. Voilà.
Okay, moi, c'est M. Emma Moïse. Le gouvernement avait décidé de prendre les délégués en charge pendant les élections de fin novembre 2015. La somme que l'État a proposée, je trouve que cette somme est insuffisante. Du moment que les délégués vont assister, ils seront là dans les bureaux de vote vers 5 heures jusqu'à une certaine heure, l'heure que je ne pourrais pas préciser. Ça peut peut-être aller au-delà de 0h, 1h du matin. Non, si ils pouvaient revoir cette somme, essayer de galvaniser plus davantage les délégués, là comme ça je pense que chacun pourra donner le meilleur de lui-même pour ne pas qu'il puisse avoir des malversations entre les délégués et puis les membres de bureau de vote.
Écho de la cité.
Monsieur Colombo, vous avez entendu les appels et suggestions sur une prise en charge efficace des blessés de l'insurrection et du putsch.
Il y a la crise à l'université et une hausse de la prise en charge des délégués lors des élections. Quel est votre commentaire par rapport à ces différentes questions?
Bon, pour les mesures d'accompagnement des victimes de l'insurrection, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment que l'État ait un œil très regardant là-dessus. C'est fait comme on l'a dit, mais c'est pas arrivé. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un an après, les gens ont toujours des problèmes à se soigner. Les gens ont toujours des problèmes à vivre. Quand on prend le cas de celui qui est blessé, qui ne peut plus rien faire, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Nous, à notre mouvement, comme j'ai dit, j'ai un répertoire, nous avons accompagné des familles pour scolariser leurs enfants. C'est vrai, avec le peu de moyens que nous n'avons pas beaucoup de partenaires. Mais je pense que l'État et ses gens, comme on a dit, ceux qui sont morts pour la nation, ceux qui sont blessés pour la nation, il n'y a pas de raison que l'État ne s'occupe pas d'eux. Donc, pour les mesures d'accompagnement, moi, je souhaiterais que, même si l'État va mettre un petit comité en place, pour que nous, mouvement Brassard, nous, c'est notre credo, nous faisions partie de ce comité pour que l'air que l'État va donner, que ça arrive réellement aux victimes.
La crise à l'université, a le problème LMD.
La crise à l'université, d'abord pour parler de ça, c'est nous comme on a dit, bon, je l'ai dit, il ne faut pas que l'État crée des cas sociaux. Et en même temps, les étudiants doivent savoir, les gens garder et savoir qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et je pense que c'est des partenaires. Hein. C'est des partenaires, ils sont obligés de dialoguer pour s'entendre. Si c'est la défense de leurs intérêts, c'est comme on a dit, il y a des choses que l'État ne peut pas faire, mais dans le dialogue, tout s'obtient par le dialogue. Le système LMD,
licence, master, doctorat.
Doctorat, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est ce que tout le monde fait, c'est bon. Mais est-ce que nous, on est prêts ici à l'université de Ouagadougou? Les mesures d'accompagnement, est-ce qu'on est prêts pour aller au système LMD? Je me pose la question. Est-ce que l'université de Ouagadougou est prête actuellement pour appliquer le système LMD? La réponse est là. Pas parce que tout le monde le fait que nous aussi, on va se jeter dedans, et sans les mesures d'accompagnement, ça va se bloquer. Ça, c'est sûr.
La prise en charge des délégués dans les bureaux de vote.
Non, ça, je suis sincèrement désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pendant que nous voulons l'argent pour soutenir les victimes, on ne peut pas prendre l'argent pour donner aux politiques. 1000 francs, mais moi, je pense que c'est beaucoup. On ne peut pas aller chercher le pouvoir les mains vides. C'est ce que je viens de dire tout de suite. Les partis politiques ou bien les politiques doivent se donner tous les moyens humains, matériels et surtout financiers pour chercher leur pouvoir. Nous voulons l'argent pour soutenir les victimes de l'insurrection. Pour nous-mêmes, on n'a qu'à récupérer cet argent, mettre dans l'enveloppe des victimes. Mais comme c'est pour dynamiser, booster la démocratie, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ne disent pas que d'augmenter, là, on n'est pas d'accord.
Merci beaucoup, M. Boukari Colombo, pour ses commentaires, analyses, conseils, points de vue et suggestions pour le bon vivre ensemble et l'amélioration de nos conditions de vie en société. Nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que notre invité était M. Boukari Colombo, membre de la société civile et président du mouvement Brassard Noir. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine.
Merci bien.
Merci.
Écho de la cité. Écho de la cité. Les hommes et femmes se prononcent sur l'actualité, les événements et faits marquants de la cité. Mon coup de gueule.
Coup de cœur.
Mon cri de cœur.
Comme coup de gueule.
Mon coup de cœur.
Mon cri de cœur.
Écho de la cité, Tikene Rwanda.